France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Fanny Richer et Loïc Antoine, que nous sommes très heureux d'accueillir cette semaine et pour un long stage jusqu'à fin janvier. Bienvenue. Culture Monde est réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Dalia. À la fin du mois de juillet, des affrontements armés entre Cambodge et Thaïlande rappelaient que de nombreux conflits frontaliers en Asie restent irrésolus. Résultat d'une longue et douloureuse histoire, frontières en Asie, des conflits en héritage. C'est notre série de la semaine. Nous parlerons demain du Cachemire, les plaies ouvertes de la partition. Mercredi, de la frontière entre Pakistan et Afghanistan, une ligne durant sous tension. Jeudi, des initiatives pour tracer la paix entre Indonésie et Timor oriental. Aujourd'hui, Thaïlande, Cambodge, la guerre des temples.
Pour résumer, tout ce qui s'est passé doit être imputé à la Thaïlande. Souvenez-vous, mes frères, mes sœurs, et vous aussi, communauté internationale, que c'est bien la Thaïlande qui a ouvert le feu sur le Cambodge parce qu'elle lorgne sur nos terres.
Le gouvernement royal thaïlandais condamne avec la plus grande fermeté les violations de la souveraineté et du droit international dont le Cambodge s'est rendu coupable avec la pose de mines terrestres antipersonnelles qui ont blessé plusieurs militaires de notre armée.
Je veux que ça cesse. Continuer à se battre affectera les deux camps et nos émotions. Mais si nous ne ripostons pas, le Cambodge pensera que nous sommes faibles ou démunis.
D'abord, un coup d'œil sur la carte. La Thaïlande est à l'ouest, le Cambodge à l'est. Entre les deux, une frontière de 817 km de la pointe du Laos au nord jusqu'au sud, le golfe de Thaïlande. Sur ces 817 km, un peu moins de 200 posent encore aujourd'hui de graves problèmes entre les deux voisins. Le 24 juillet dernier, le Cambodge a riposté à coups de canon au bombardement de l'aviation thaïlandaise et vice-versa. Les combats ont fait 43 morts et 300 000 déplacés en 4 jours. Un cessez-le-feu a depuis fait taire les armes, mais les armées continuent à installer barrières, barbelés, drapeaux, guérites, tout ce qui pourrait permettre de grignoter quelques mètres à l'ennemi, d'asseoir chacune sa souveraineté sur ce territoire disputé, en particulier autour des temples khmers que Cambodge et Thaïlande revendiquent tous les deux comme étant les leurs. Ces tensions qui perdurent et qui avaient déjà embrasé la frontière en 2011 révèlent le flou du traité qui en 1907 fixait ce tracé de cette ligne sous l'égide de la France dont le Cambodge était un protectorat. La Thaïlande, alors royaume de Siam, en conteste aujourd'hui la légitimité, bien qu'elle l'eût elle aussi ratifiée. Quelles sont les racines de ce conflit qui vire de façon récurrente à l'affrontement? Comment la question de la frontière nourrit-elle aussi les discours nationalistes de part et d'autre? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Eugénie Mériot.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Et merci à vous de vous y être rendue, d'avoir répondu présente ici dans ce studio. Vous êtes maîtresse de conférence en droit public à l'Université Paris 1. Il est 5h04 à Montréal où vous êtes, Gabriel Fauveau. Bonjour.
Bonjour.
5h du matin, bon courage et bienvenue. Vous êtes géographe, membre du Centre d'études asiatiques de l'Université de Montréal. Merci Gabriel Fauveau d'être avec nous. D'abord, quand on écoute la radio et qu'on n'a pas de carte sous les yeux, il faut réussir à se représenter cette frontière dont la partie qui nous occupe ce matin court sur un peu moins de 200 km. Quel paysage, Gabriel Fauveau, traverse ces 200 km de ce qu'on va appeler frontière, même si elle est encore aujourd'hui mal délimitée?
Oui, du côté du Cambodge, on se situe dans des zones qui sont assez escarpées, avec une présence forestière assez importante. Et là, à l'heure actuelle, on a un front qui est assez figé. On a des militaires de chaque côté de la frontière, des postes frontières qui sont officiellement fermés. Et puis des personnes, des camps de réfugiés côté cambodgien qui, petit à petit, se sont se sont démantelées. On a un certain nombre de réfugiés qui sont en train de revenir dans les zones de conflit. Mais en même temps, on a eu aussi des avancées territoriales de part et d'autre, et notamment de la part de la Thaïlande, qui fait que certains villages cambodgiens aujourd'hui, qui se situent le long de la frontière, sont coupés en deux par des barbelés, avec une population qui attend de pouvoir revenir dans leur village.
300 000 personnes ont dû quitter leur maison pendant les 4 jours qu'ont duré les affrontements. Des camps de déplacés ont été montés à la hâte cet été. Certains, comme vous le dites, commencent à être vidés, même si les habitants racontent qu'ils ont du mal à rentrer chez eux.
Comme nous habitons à proximité de la frontière, le chef du village nous a ordonné d'évacuer immédiatement. Nous vivons en plein milieu du territoire disputé. Nous avons l'habitude. En 2011, une bombe avait déjà explosé juste à côté de ma maison. L'impact avait soufflé et brisé les vitres. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de bombe, mais il y a eu des tirs nourris et les balles ont volé tellement bas qu'elles ont sifflé de partout et ont endommagé mon toit.
Oukpof, une réfugiée cambodgienne dont la maison a déjà été endommagée en 2011. Elle était interrogée le 29 juillet dernier par TV5 Monde. Le conflit a donc duré 4 jours. Qu'est-ce qui a déclenché ces affrontements du mois de juillet, Gabriel Fauveau? Comment les qualifier dans leur intensité et quels en ont été les signes avant-coureurs les mois qui ont précédé?
Alors on a un conflit donc comme vous l'avez déjà dit hein, qui s'étale sur des décennies et des décennies. Le déclenchement de ce dernier conflit là qui est un de ceux qui a mené à une escalade militaire une des plus importantes, un nombre de réfugiés aussi parmi les plus importants, trouve a priori hein, son origine. C'est toujours difficile de savoir exactement quand est-ce que les tensions ont pu monter, mais le 13 février 2025, on a un groupe d'épouses de soldats cambodgiens qui étaient en voyage dans un des temples qui se situe du côté thaïlandais, le Prasat Tamwentom, et qui ont chanté l'hymne cambodgienne dans ce temple-là, et des soldats thaïlandais les ont empêchés de chanter. Et ça, c'est un des points de départ qui a été identifié comme la source de la montée de tension.
Le temple de Tamwentom, c'est ce temple avec des vestiges en grès rose, et c'est un des épicentres du conflit avec un autre temple qui est le temple de Prévir. Oui, pardon, je vous laisse continuer, Gabriel Fauveau. Vous alliez parler d'autres signes avant-coureurs après le mois de février. D'autres petits signes, en effet, ont montré des tensions toujours entre armées thaïlandaises et cambodgiennes.
Oui, tout à fait. Bah, c'est à partir de ce moment-là que des mouvements de troupes vont être détectés du côté du Cambodge. En mars 2025, les Cambodgiens construisent de nouveaux accès militaires à la frontière, des fortifications. En mai, l'armée thaïlandaise découvre que les Cambodgiens commencent à construire des tranchées. Et entre fin mai et mi-juin, on a un gros déplacement de troupes du côté cambodgien, dont de l'artillerie longue portée, vers ce fameux triangle d'émeraude, hein, cette partie qui lie les frontières entre le Cambodge, le Laos et la Thaïlande. La Thaïlande renforce sa présence militaire jusqu'à cet événement du 25 juin 2025 et de la fuite de l'entretien téléphonique. Mais ça, je pense que vous allez...
Oui, on va en parler longuement parce qu'il y a aussi des ressorts politiques derrière cette crise-là. En tout cas, l'armée thaïlandaise accuse le Cambodge dès le mois de juin, je crois, d'avoir posé des mines antipersonnelles, et c'est l'explosion d'une de ces mines qui provoque l'embrasement le 24 juillet. 4 jours plus tard, le premier ministre cambodgien Hun Manet saluait le cessez-le-feu trouvé à Kuala Lumpur sous l'égide de l'ASEAN.
Today we have a very good meeting and very good results that hope.
La réunion d'aujourd'hui était très positive et fructueuse. Elle nous laisse espérer que les combats qui ont déjà fait beaucoup de morts, de blessés et de déplacés vont immédiatement s'arrêter. Il y a au moins 300 000 réfugiés, 140 000 de notre côté et 160 000 du côté thaïlandais. Nous espérons que les solutions esquissées par le Premier ministre Anva nous permettront d'avancer à nouveau dans nos discussions, d'être dans la désescalade et de retrouver des relations normales.
Donc des affrontements aussi violents que brefs, et de toute façon la racine de ces affrontements est loin d'avoir été déracinée ou réglée. En tout cas, Ginny Meriaux, cette frontière, elle est conflictuelle depuis qu'elle a été tracée en 1907. Le Cambodge était alors un protectorat français. Ce qui est la Thaïlande actuelle était le royaume de Siam. Qui décide à l'époque de la frontière telle qu'elle existe encore aujourd'hui et pourquoi ?
Alors, tout d'abord, il faut remettre ce tracé de la frontière dans un contexte plus large, prendre un petit peu de hauteur. La notion elle-même de frontière, c'est une importation occidentale. Le Siam est un pays qui n'a pas été colonisé et qui s'est vu imposer un certain nombre de traités, dits traités d'extraterritorialité, par les puissances occidentales, que ce soit avec le Royaume-Uni qui colonise la Birmanie,
donc les Indes britanniques,
voilà, à l'ouest, ou que ce soit la France avec la colonisation de l'Indochine. Avant cette période du 19e siècle, donc le premier traité a lieu en 1855, c'est le traité Bowring avec les Britanniques, et ensuite nous avons un traité avec la France en 1856, donc appelé traité d'amitié et de commerce, mais en fait il s'agit pour les puissances britanniques et françaises de s'assurer de privilèges particuliers vis-à-vis du Siam, en matière de souveraineté juridique notamment, et en matière de commerce. Donc ce sont des traités qu'on appelle en Chine les traités inégaux, et de la même manière, en Thaïlande, ce sont des traités considérés comme humiliants pour le Siam. Et donc, à ce moment-là, on va commencer, dans la pensée thaïlandaise du roi, on va commencer à penser de manière occidentale pour échapper à la colonisation. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à créer un État centralisé avec des frontières. Alors qu'avant cela, les rapports entre les différents royaumes étaient des rapports assez fluides, avec pas de frontières véritablement délimitées, des jeux d'alliances. On parle de mandala, en fait, pour parler de ce pouvoir qui émane du centre de la capitale et qui ensuite se répand sur les territoires, mais sans que la frontière soit véritablement délimitée et soit au cœur de la pensée étatique. C'est-à-dire, nous avons une construction qui est tout à fait différente.
C'est-à-dire que on parle plutôt de marge, c'est quelque chose de plus flou et d'extensible en quelque sorte, alors que la frontière, c'est vraiment une limite.
Voilà, l'État occidental, il est pensé, il est défini par sa frontière, et l'imaginaire, c'est que le droit de l'État, le pouvoir de l'État s'exerce de manière quadrillée et de manière uniforme sur ce territoire. Alors que dans la pensée traditionnelle sud-est asiatique, on est plutôt sur une pensée en termes de, sur une conception en termes de faisceau de lumière, par exemple. On peut penser que nous avons le cœur du faisceau de lumière dans le palais royal, donc dans la capitale, et ensuite, cette lumière se perd un petit peu dans les limbes, et on ne sait pas vraiment, dans certains territoires, si les allégeances, elles sont plutôt au Laos, au Cambodge, ou ici, ou là. Donc, lorsqu'il y a ce tracé de la frontière, déjà, c'est un moyen pour le Siam de s'assurer d'éviter la colonisation au prix de perte de territoire. C'est-à-dire que à ce moment-là, le calcul qui est fait par le roi, c'est donc le roi Chulalongkorn à l'époque, c'est véritablement de s'assurer de la souveraineté du Siam, et eh bien on peut perdre un certain nombre de territoires. Et donc ça, c'est donc à la fin du 19e siècle. Et puis ensuite, au début du 20e siècle, nous avons ce premier traité, le traité franco-siamois, celui de... Alors, il y en a d'abord un en 1904, ensuite un autre en 1907. Donc ce sont deux traités qui font suite à une guerre entre la France et le Siam, la guerre de 1893, justement sur les questions frontalières Cambodge et Thaïlande. Et ces guerres-là sont remportées par la France, et la France peut donc gagner un certain nombre de territoires, notamment le Laos, et des zones frontalières avec donc qu'elle intègre dans ses colonies.
Alors, j'ai juste une petite question à ce sujet, d'ailleurs, et Gabriel Fauveau, pour également vous faire réagir à ce qui vient d'être dit. Comment la frontière est-elle délimitée, encore une fois, selon les points qui existent encore aujourd'hui ? Est-ce que la France envoie des militaires, des cartographes en décider sur le terrain, un peu dans un tout autre décor et sous d'autres températures, comme les topographes de l'armée russe à la frontière chinoise d'Andersu Uzala, le livre de Vladimir Arseniev et film de Kurosawa ? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ? Des gens qui vont sur le terrain et qui essaye de saisir si tel et tel territoire appartient plutôt au royaume de Siam à l'époque, donc la Thaïlande, ou au Cambodge qui est encore sous protectorat français.
Mais côté la signature d'un accord en 1904 qui vise à régler effectivement ce conflit va se traduire par la construction d'une commission franco-siamoise de délimitation des frontières qui va être dirigée par Fernand Bernard du côté de la France, qui est un polytechnicien et officier de l'artillerie royale. Donc il faut bien comprendre qu'en 1904, quand un traité entre la France et le Siam est passé, on va avoir une espèce de délimitation théorique des frontières en fonction de la connaissance que les Français ont du territoire, qui est finalement une connaissance assez, assez vague pour les Français. Le Cambodge, c'est pas une priorité. La priorité, c'est plutôt le Vietnam. Et les confins nord et ouest du Cambodge sont des territoires, en fait, assez mal connus. Et donc, il va falloir ensuite mettre en place ce traité de délimitation des frontières. Et là, on va envoyer un cartographe qui va réaliser trois principales missions entre 1905 et 1907. Et il s'agit quand même de délimiter 7000 kilomètres de frontières, parce qu'on parle pas seulement de la frontière entre le Cambodge et le Siam, mais aussi entre le Laos et le Siam.
Donc, sous la pression française, le Siam signe cet accord avec la France qui autorisait le Cambodge à récupérer une partie de territoire précédemment conquis par le Siam, notamment une partie du royaume d'Angkor. Est-ce que, Jenny Mériot, dans l'esprit des dirigeants du Siam à l'époque, cet accord est temporaire? Est-ce qu'ils se disent, on signe, mais on verra bien ce qui se passe dans les années qui viennent, la colonisation? Est-ce qu'ils anticipaient déjà que la colonisation n'était que temporaire et que tout ça, finalement, c'était pour vraiment garder leur souveraineté et surtout ne jamais être colonisés?
Alors, il y avait un rapport de force qui était défavorable et qui était favorable à la France, la puissance coloniale, vis-à-vis du Siam, qui est l'un des seuls territoires en Asie du Sud-Est à avoir réussi à éviter cette colonisation. Alors, c'est évidemment, de la part du Siam, un pis-aller que de signer ce traité. Mais il faut quand même noter que dans ce traité, il y a des aspects assez contradictoires, parce qu'il y a à la fois un plan qui, en effet, donc on va parler ensuite du temple de Pravihar, donc parlons de ce temple-là qui est au cœur du conflit aujourd'hui. Il était attribué, donc, selon le plan, au territoire français, donc au Cambodge, mais il y avait une annexe 1 dans ce traité qui lui parlait de l'attribuer à la Thaïlande. Donc il y avait aussi, il y a tout un ensemble de, comme l'a dit mon collègue, c'était assez... En fait, mal ficelé, avec beaucoup d'ignorance de part et d'autre, et un traité qui, finalement, aujourd'hui, comme beaucoup de traités coloniaux de tracer des frontières, d'ailleurs, sont faits à la va-vite, sans vraiment prendre le temps de s'assurer que ce traité puisse être pérenne. Donc, pour les Siamois, c'est un traité qui est en soi porteur d'ambivalence.
Gabriel Fauveau, à ce sujet.
Oui, et je rajoute, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, puis je rajouterais aussi que le Siam à ce moment-là, qui effectivement a la pression d'arriver à un accord, pousse la France à s'engager à ne plus émettre de revendications territoriales. Donc ce qui est réalisé, les relevés qui vont être réalisés sur le terrain, finalement, passent un tout petit peu, en tout cas la qualité des relevés, passe un tout petit peu au second plan de cet objectif aussi du Siam, de faire en sorte que ces revendications territoriales de la part de la France s'arrêtent avec traçage des frontières de 1907.
Au cours du XXe siècle, le royaume de Siam, qui devient la Thaïlande en 1939, à l'occasion de récupérer ce temple de Pravihar dont vous parliez, Eugénie Mériot, profitant de son alliance avec le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment s'opère cette reconquête? Mais surtout, pourquoi la Thaïlande tient-elle tant à récupérer ce temple? Pourquoi ces temples sont-ils à ce point les épicentres de ce conflit entre Thaïlande et Cambodge?
Alors, en réalité, ces temples ne sont pas véritablement les épicentres des conflits. Il s'agit davantage de territoires que de temples. Les temples ont beaucoup plus de signification pour les Cambodgiens que pour les Thaïlandais, ce sont des temples khmers. Bon. Mais pour les Thaïlandais, c'est une question de nationalisme tout à fait classique. Donc, ce qui se passe en 1939, c'est que nous avons l'arrivée au pouvoir d'un premier ministre fasciste, Phibun Songkhram, qui donc s'allie avec les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, profitant de ce qui se passe avec la France de Vichy, qui est très affaiblie, eh bien, s'engage dans une guerre pour récupérer
libérer les territoires qui ont été cédés par le traité de 1907, territoires qui sont effectivement récupérés par Phibun Song Kram. Donc c'est un grand moment de fierté nationale pour ce donc qui correspond tout à fait à l'objectif de Phibun Song Kram. Il y a d'ailleurs un monument au cœur de Bangkok qui s'appelle le monument de la victoire, qui est une formidable obélisque extrêmement haute au centre de Bangkok. Et là, nous avons cette récupération des territoires perdus. Perdu en 1907.
Territoire qu'elle rendra au Cambodge, tout ça est compliqué, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment parce que la Thaïlande aspire à entrer à l'ONU et que c'est, si j'ai bien compris, l'une des conditions, que change alors le retrait de la France d'Indochine quelques années plus tard, en 1954 ? Est-ce que la Thaïlande se sent autorisée à revendiquer à nouveau des territoires dont elle estime qu'ils lui avaient été retirés par l'accord de 1907 ?
Alors, il faut déjà préciser que nous sommes après la Seconde Guerre mondiale et que la France essaie de récupérer ses colonies. C'est ça qui est encore en train de se passer et essaie de récupérer ses colonies en maximisant les territoires couverts par ses colonies. Donc on est loin du récit selon lequel, après la Seconde Guerre mondiale, la France est prête à s'engager dans un processus de décolonisation. Donc là, c'est tout à fait le contraire. La Thaïlande, à ce moment-là, est passée sous un autre régime, le régime de Pradipan Ommyong. Donc l'objectif pour le Siam, donc la Thaïlande à l'époque, c'est de se défaire des traités d'extraterritorialité qui sont encore pour certains en vigueur et d'entrer à l'ONU. Et donc c'est un moyen de pression pour la France et donc la Thaïlande en effet rend ces territoires-là à la France. Mais tout en peut-être conservant dans une certaine mesure la nostalgie de ces territoires perdus là, qui referont surface à chaque fois qu'il y aura des moments nationalistes dans l'histoire de la Thaïlande, reviendront sur le devant de la scène, instrumentalisés par les forces nationalistes, ces questions de perte de territoire et de perte de souveraineté.
Force nationaliste qui existe aussi côté cambodgien, cette fois de la frontière, depuis plusieurs années maintenant, Gabriel Fauveau. À chaque fois que la question se pose, le Cambodge revendique ou porte le cas de nouveau devant la Cour internationale de justice, qui à chaque fois lui donne raison. Comment la Cour internationale de justice a-t-elle motivé sa décision à chaque fois qu'elle a été saisie sur cette question de la frontière entre Cambodge et Thaïlande ?
Oui, au moment de l'indépendance, effectivement, on va avoir comme on vient de dire une récupération du temps par la Thaïlande, mais qui va être par la suite contestée, et le Cambodge va faire effectivement appel entre 59 et 62 à la Cour internationale de justice pour régler ce conflit. Et il faut bien dire que la Thaïlande de son côté, depuis 1960, justement à la suite de cet appel par le Cambodge à la Cour internationale de justice, n'accepte pas la juridiction obligatoire de la CIJ, ce qui signifie que la Thaïlande ne reconnaît pas l'autorité supérieure de la CIJ sur ces conflits frontaliers et met de l'avant plutôt la nécessité de trouver un accord entre les deux parties. La CIJ, quand elle va se pencher sur ce problème-là, elle va se focaliser sur les temples en tant que tels, et elle va surtout se poser la question à savoir si les temples appartiennent ou non au Cambodge, et elle va se prononcer sur ce contexte-là, mais elle va pas revenir en détail sur l'ensemble du tracé de la frontière, sur son historique, et elle ne va pas donner des recommandations très très spécifiques sur la frontière en tant que telle. Donc en 62, le premier règlement de la CIJ va effectivement donc accorder la nationalité des temples au Cambodge, et donc l'emprise territoriale cambodgienne sur ces temples, mais elle laisse un flou assez important sur l'enjeu de la frontière, flou qui va perdurer, qui va expliquer pourquoi par la suite on va continuer à avoir des contentieux territoriaux.
Des contentieux territoriaux qu'une commission mixte de délimitation des frontières essaye ou est censée en tout cas régler. Elle a été créée en 1997, mais elle ne s'est réunie que 7 fois depuis. Donc elle a achevé la démarcation dans 13 zones, 11 a priori font encore l'objet de désaccords. Et d'ailleurs, Eugénie Mériot, peut-être en quelques mots, on parle aussi de désaccords entre Cambodge et Thaïlande sur les échelles cartographiques très très, très prosaïquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas la même façon, l'un et l'autre, de se projeter sur une carte, en quelque sorte?
Alors, il faudra peut-être poser cette question à mon collègue géographe. Moi, je vais revenir sur la question du droit sur la Cour internationale de justice. En fait, l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice en 1962, il porte non pas sur le bien fondé du traité, mais sur le fait que la Thaïlande n'a pas fait d'objection persistante à la délimitation de la frontière. Donc c'est un principe de droit international public qui dit que lorsque on n'objecte pas de façon persistante et continue à la formation d'une coutume internationale, cette coutume, notamment sur la question des frontières, se forme. Mais la Thaïlande remet en cause cette question de l'objection non seulement elle n'avait pas le choix, mais que aussi il y a toute une série de documents qui attestent du fait qu'elle a formulé des objections. Et c'est la raison pour laquelle ensuite, en 2008, lorsque le Cambodge inscrit le temple de Pravihar au patrimoine mondial de l'UNESCO. À ce moment-là, on a à nouveau une flambée du conflit. On pourra peut-être revenir sur les enjeux politiques internes qui sont liés à cette flambée en 2008. Mais en tout cas, à ce moment-là, le Cambodge fait une requête en interprétation de l'avis de la CIJ, qui en effet n'était pas très clair en 1962, sur la question de l'attribution du temple de Pravihar. Et d'ailleurs, j'ai un éminent collègue à moi, Jean-Marc Sorel, qui était le conseiller du Cambodge sur cette question-là, et la CIJ n'a fait finalement que, dans une certaine mesure, reprendre ce raisonnement-là, donc la question de la coutume sur le tracé des frontières qui viendrait du fait que la Thaïlande n'a pas formulé d'objection persistante à ce tracé des frontières.
Donc ce traité de 1907 sert de base juridique à toutes les décisions de la Cour internationale de justice en la matière. Elle a été sollicitée à nouveau suite aux affrontements de 2011 et elle ajoute alors que le temple de Pravihar, par exemple, a une identité angkorienne du nom du royaume d'Angkor dont est issu le Cambodge. Donc en quelque sorte, elle reconnaît la cambodgianité du temple, si on peut le dire comme ça. Les enjeux politiques, évoquons-les d'ores et déjà, et peut-être les enjeux un peu plus récents. Comment comprendre, Ginny Merriot, ces déclarations faites par l'ancienne, puisqu'elle a été démise de ses fonctions peu après, la première ministre thaïlandaise encore cet été, Petongtarn Shinawatra, par téléphone à l'ancien dirigeant du Cambodge, Hun Sen, qui lui a valu sa place quand celui-ci a rendu leur discussion publique dans un geste qu'on ne s'explique pas, mais vous allez l'un et l'autre nous éclairer. Comment comprendre qu'elle ait mis en cause sa propre armée dans la gestion du différend frontalier? Parce que c'est ça, elle était au téléphone avec l'ancien premier ministre du Cambodge et en gros elle a dit le général qui est général thaïlandais à la frontière, c'est presque un ennemi de la Thaïlande.
Oui, alors il faut replacer, il faut revenir un petit peu en arrière. Donc en Thaïlande, vous avez deux groupes politiques qui s'opposent depuis le début des années 2000, qui sont les chemises jaunes et les chemises rouges. Les chemises jaunes sont plutôt ultra-royalistes et ultra-nationalistes. Ils s'opposent aux chemises rouges qui sont, eux, plutôt démocrates, plutôt moins nationalistes et moins royalistes, même s'ils sont aussi nationalistes et royalistes, mais dans une moindre mesure. Et surtout, ils sont fédérés par l'adoration de la personne et du clan de Thaksin Shinawat. Donc Thaksin Shinawat a été élu en 2001 la première fois et depuis, il a remporté quasiment toutes les élections depuis 2001, même s'il a été renversé par un coup d'État militaire en 2006. Ensuite, sa sœur qui a été d'abord élue Yingluck en 2011, après le coup d'État qui a renversé Thaksin. Et Petongtarn, c'est sa fille. Donc le clan Shinawat a continué d'exercer le pouvoir malgré les coups d'État militaires successifs, puisque j'ai oublié de le mentionner, mais sa sœur aussi a été renversée par un coup d'État militaire. Et historiquement, ce clan Shinawat donc est très proche du Cambodge, très proche de Hun Sen. Par exemple, en 2008, lorsque le Cambodge demande donc l'inscription du temple de Pravihar au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Thaïlande, en la personne de Samak, qui est un proche de Thaksin à l'époque, donc au gouvernement, le Premier ministre, appuie cette demande par un communiqué. Que se passe-t-il? Les chemises jaunes manifestent contre Shinawat en disant Shinawat.
Ultra-royaliste, ultra-nationaliste.
Chemises jaunes manifestent contre ce communiqué de soutien au Cambodge en disant voilà, ce sont les Shinawat, le clan Thaksin Shinawat qui est toujours plutôt pro-Cambodge que pro-Thaïlande et qui vend notre pays au Cambodge du matin au soir. Donc ça, c'est le premier moment où on a vraiment une flambée nationaliste sur la question du Cambodge et nous sommes en 2008. Alors, il y avait
avait eu un antécédent avant avec une actrice thaï qui avait dit « Les Cambodgiens ont volé notre temple d'Angkor Wat » et donc il y avait eu des manifestations devant les ambassades, etc. au Cambodge. Mais donc, ça, c'est vraiment persistant dans la politique thaïlandaise, c'est l'idée selon laquelle Thaksin est très proche d'Hun Sen. Mais ce qui se démontre, parce que lorsque Thaksin a été renversé par un coup d'État militaire et qu'il a fait des manifestations pour galvaniser ses troupes de chemise rouge, il les a fait depuis Siem Reap, au Cambodge, avec le soutien de Hun Sen.
Hun Sen, l'ancien Premier ministre du Cambodge, qui a cédé sa place il y a 2 ans à son fils, Hun Manet.
Et donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la conversation téléphonique de Petong Tan, donc la fille de Thaksin, avec Hun Sen, qui n'est plus au gouvernement, mais c'est son fils qui est au gouvernement au Cambodge, où on voit très bien, là, dans cet appel téléphonique, la proximité très très grande entre Petong Tan et Hun Sen. Elle l'appelle Lung, ça veut dire oncle. C'est-à-dire, elle appelle le dirigeant cambodgien comme un membre de sa famille, alors que dans le même temps, elle désigne, lorsqu'elle parle du chef de l'armée responsable des affrontements à la frontière avec le Cambodge, elle parle de lui comme d'un opposant. Et donc, il y a vraiment là, pour les chemises jaunes, CQFD, les Chinawat sont pro-Cambodge et sont anti-Thaïlande. Et donc, ils ont à nouveau manifesté contre les Chinawat et demandé la suspension de la première ministre qu'ils ont obtenu.
Donc ce coup de fil qualifié de révérencieux vis-à-vis du Cambodge et d'irrévérencieux vis-à-vis de l'armée thaïlandaise qui, elle, dépend du pouvoir royal. Elle est plutôt indépendante des alternances politiques et parfois provoque des coups d'État, comme vous l'avez rappelé. Et le Cambodge, cette fois, Gabriel Fauveau, est-ce que le pouvoir en place, un pouvoir dynastique, puisque Hun Sen, au pouvoir depuis 1998, a cédé sa place à son fils il y a 2 ans, est-ce que le pouvoir en place se sert aussi de cet argument d'un danger à la frontière pour asseoir son autorité ?
Oui, tout à fait. Toute l'histoire est un peu nébuleuse du côté du Cambodge, dans le sens où déjà c'est Hun Sen qui semble être à la manœuvre. Alors Hun Sen, il ne dirige plus officiellement le pays. Il est quand même président du Sénat, donc il a encore une fonction officielle forte, mais officiellement il a légué effectivement la direction du parti du peuple cambodgien que Hun Sen a cofondé au milieu des années 80 et qui est donc au pouvoir depuis plusieurs décennies, surtout à partir de et qui règne sans partage depuis la deuxième moitié des années 90. Et donc ça, les raisons pour lesquelles Hun Sen a décidé de faire fuiter cet appel téléphonique est assez étrange. Ma collègue l'a dit, le clan Thaksin et Hun Sen entretiennent une amitié depuis plusieurs décennies. Il faut aussi rappeler que le clan Thaksin a des intérêts économiques au Cambodge assez importants. À la fin des années 90, ils ont participé à fonder la compagnie Medfone, qui est une des plus importantes compagnies de téléphonie mobile et d'internet au Cambodge, avec une concession de 35 ans qui leur a été accordée, des entreprises de ciment, des entreprises de riz notamment. Donc on a déjà une imbrication d'intérêts entre le clan Thaksin et le Cambodge. Et en fait, quand on parle du Cambodge, surtout sur les intérêts économiques, on va parler aussi assez rapidement des clans dirigeants au pouvoir qui non seulement sont au pouvoir, mais ont aussi des intérêts économiques importants à l'échelle du pays. Donc les raisons pour lesquelles Hun Sen a choisi de faire fuiter cet enregistrement sont nébuleuses, mais on peut émettre un certain nombre de suppositions. La première, c'est que on est dans un régime autoritaire. Vous l'avez dit, il y a eu un leg familial du pouvoir, et Hun Manet, donc le fils de Hun Sen, aujourd'hui cherche aussi à gagner en légitimité. Il arrive après des décennies de prise de pouvoir de son père. aux yeux d'un certain nombre de Cambodgiens, il allait impulser un changement politique. Hein. Il est plus jeune, il a été formé à West Point, aux États-Unis, ce que tout le monde sait au Cambodge. Mais on se rend compte qu'en fait, il a tendance à s'inscrire dans la directe continuité de son père. Il a une personnalité qui est un peu moins imposante. Et donc, il est un peu remis en cause, même si on le dit pas officiellement. Les Cambodgiens considèrent que c'est encore Hun Sen qui dirige le pays, puis que finalement Hun Manet va pas changer grand chose. Et donc typiquement, ce type de conflit-là servent une double instrumentalisation. La première, c'est de montrer que le peuple a raison de faire confiance, entre guillemets, au parti du peuple cambodgien, parce que c'est le seul qui peut le défendre contre les ennemis extérieurs. Et d'ailleurs, chose très rare, même des membres de l'opposition, dont une partie sont en exil, ont pris la défense du Cambodge dans ce conflit-là. Hein. Et le deuxième élément, c'est que ça permet aussi de cimenter une population qui, de manière politique, est assez fragmentée autour du nationalisme cambodgien.
Donc mettre en scène une adversité contre un ennemi commun, la Thaïlande, qui serait donc cet ennemi contre lequel le peuple cambodgien peut s'unir, et cette adversité est mise en scène aussi sur les réseaux sociaux. Peut-être un tout petit mot, Eugénie Mériot, comme on parle beaucoup de dynasties familiales et en Thaïlande et au Cambodge, dans deux cas par ailleurs très différents, mais le père de la première ministre thaïlandaise quand elle a été destituée, donc son père Thaksin Shinawatra, lui, il a dit qu'il allait partir à Singapour. Il paraît que des milliers de Thaïlandais ont suivi le vol de son avion privé sur Internet, et qu'on a vu progressivement que son avion, en fait, n'allait pas du tout à Singapour, mais à Dubaï. Qu'est-ce qu'il a fui? Pourquoi est-ce qu'il est parti comme ça? Alors qu'en plus, je crois qu'il a été acquitté pour des histoires, une affaire de lèse-majesté.
Alors c'est un sport national en Thaïlande de suivre les avions privés, en particulier le jet privé du roi, pour savoir où il va, parce qu'il voyage énormément. Et de la même manière pour Thaksin, pour savoir s'il s'enfuit ou s'il revient. Donc Thaksin, lorsqu'il a été renversé par un coup d'état militaire en 2006, à cette époque-là, il se trouvait à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Il n'est pas revenu en Thaïlande parce qu'il a été condamné ensuite à de la prison ferme, chose qu'il ne voulait absolument pas faire. Donc je rappelle que Thaksin est un milliardaire... donc extrêmement riche, habitué à un certain niveau de confort, dirons-nous, et qui fait des affaires, comme ça a été rappelé, avec Hun Sen au Cambodge. Donc il a été... il s'est installé à Dubaï. D'ailleurs, c'est le cas de sa sœur, Yingluck, après qu'elle a été renversée par un coup d'État en 2014. Donc, elle s'est installée entre Londres et Dubaï avec son père, puisque elle aussi, elle a été condamnée à de la prison ferme. Donc, ce qui s'est passé depuis 2006 dans l'histoire de la Thaïlande, c'est la possibilité d'un pacte, d'une négociation entre le roi et les chemises jaunes, qui soutiennent le roi, d'une part, et Thaksin et les chemises rouges, d'autre part, pour le retour de Thaksin en Thaïlande. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il faisait ses grandes manifestations au Cambodge, il parlait justement de ce pacte de retour. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'après 2023, les dernières élections, il y a un parti politique qui a émergé, qui a fait encore plus peur à la monarchie que le parti de Thaksin. C'est le parti du peuple. Et là, tout d'un coup, les alliances ont changé. L'armée, les royalistes et le roi se sont trouvés dans une alliance avec Thaksin, et il y a eu ce pacte de retour. Et Thaksin a pu rentrer et sa fille devenir première ministre. Sauf que ce pacte était très fragile, et que apparemment il y a eu donc une disgrâce, hein, qui, et donc Thaksin a été accusé de lèse-majesté, sa fille a été suspendue de son poste de première ministre, et c'est la raison pour laquelle, lorsque il a senti cette alliance shifter, eh bien il a pris un avion disant qu'il allait faire un examen médical à Singapour, et ensuite fait, l'avion s'est rendu à Dubaï. Donc tout le monde s'est dit, ah ça y est, il repart, le pacte est définitif derrière nous, sauf qu'il est revenu. Finalement, il est revenu en Thaïlande et il est allé à son procès pour lèse-majesté.
On ne sait pas, vous dites qu'il investit beaucoup au Cambodge, il a des affaires là-bas, je ne sais pas, on le verra s'il investit aussi dans les jeux en ligne, les casinos qui ont fleuri sur cette frontière. On en parlera de ces casinos juste après ce groupe thaïlandais, Wicked Lights. We'll be right back.
song up in our car, song up in our car to climb. Coating with deicide, coating with deicide to blow. To bring a baggy deep. To match a bike up by deep. ดาวเทียมก็คือสิตาใช่ไหมโตมาเริ่มตีลังกาอยากมานัดตีลังกากับเธอแล้วโชคชะตาเธอก็ปุ่มกากระบาดก็ร้อยปีกับมาไปกดปุ่มกากระบาดแต่เราจะบินไปไหนดี
Weak Lights, un groupe thaïlandais, cette chanson astronaute, toute récente, qui parle d'espoir et de rêve, celle par exemple que l'on survive au chaos, tout simplement, comme on apprend à endurer. Vous écoutez Culture Monde, le premier épisode de notre série sur les frontières en Asie, des conflits en héritage. Aujourd'hui, entre la Thaïlande et le Cambodge, la guerre des temples, mais pas seulement. Et quand la première veut affaiblir le second, elle s'en prend aussi au réseau d'arnaques liées au Cambodge et qui prospère à la frontière.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
La frontière entre Thaïlande et Cambodge concentre aussi de très nombreux casinos, donc de gros intérêts financiers, d'autant que certains de ces établissements servent de façade à une autre industrie tout aussi lucrative, celle des arnaques en ligne. Des milliers de travailleurs réduits en esclavage sont contraints d'escroquer des internautes, comme l'explique cet homme à France 24.
Dès mon atterrissage au Cambodge, j'ai été immédiatement envoyé dans un grand immeuble avec les autres travailleurs. Une fois là, il m'était impossible de m'échapper. Le lotissement était protégé par des murs hauts de 3 mètres et des barbelés. J'ai eu très peur, d'autant qu'il y avait aussi des gardes armés. J'ai tenté de m'enfuir 4 fois en 20 jours, mais j'ai toujours été rattrapé. J'ai même été battu. Je me suis dit que je continuerais à essayer de m'échapper aussi longtemps que je serai en vie.
Bonjour Boris Lebeau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de géographie et aménagement à l'Université Sorbonne Paris-Nord, chercheur à l'unité de recherche Pléiade. Vous êtes le co-auteur de Géopolitique des Jeux d'argent paru aux éditions du Cavalier Bleu. D'abord, à quoi ressemblent ces casinos cambodgiens à la frontière avec la Thaïlande, puisque depuis le début de cette émission, on essaye aussi de créer un peu des images sur cette zone qu'on connaît mal?
Alors, il y en a de toutes sortes, hein, parce que vous avez effectivement une dissémination de ces établissements de jeux tout au long de la frontière, parfois dans des zones rurales, de tout petits casinos, mais l'essentiel de ces établissements sont quand même concentrés à un point particulier, dans la ville de Poipet, qui est le principal point de passage en réalité entre la Thaïlande et le Cambodge, une ville de 100 000 habitants. Et dans cette ville, vous avez une exceptionnelle concentration des établissements de jeux, puisque les casinos sont interdits en Thaïlande. Et là, les établissements sont de formes assez diverses. Vous en avez des grands, des petits. Rien de très clinquant en réalité, hein. C'est quand même des casinos qui datent souvent du milieu des années 2010. Et qui sont plutôt réservés à une clientèle rurale venue de Thaïlande. Et donc ces casinos sont vraiment assez typiques. D'ailleurs, on en a certains, vous rentrez, vous n'avez pas du tout une façade de casino, vous rentrez dans un hall d'immeuble, vous avez une planche avec des tréteaux, et là on voit des gens qui jouent en bat, avec des parfois des téléviseurs, la monnaie thaïlandaise.
Donc exactement. Pas la monnaie du Cambodge, la monnaie thaïlandaise, c'est intéressant, on est au Cambodge mais on mise le bat.
Exactement. On mise le bat, on parie parfois sur des combats de coqs qui ont lieu dans les campagnes aux alentours. On joue à toutes sortes de jeux. On ne sait pas trop si les propriétaires sont thaïlandais, cambodgiens, chinois ou d'autres nationalités. C'est un monde assez opaque. Souvent, les écritures sont en chinois sur les façades des casinos. C'est pas toujours très lisible.
Et alors, est-ce que ce sont les mêmes qui travaillent pour les jeux en ligne et notamment l'arnaque en ligne? Quels sont les groupes criminels derrière cette industrie de l'arnaque en ligne qui a son épicentre également, enfin l'un de ses épicentres dans ces villes casinos de la frontière?
Oui, vous avez raison. Alors, ce qui nous avait frappé, hein, c'est que de plus on enquêtait sur les casinos, parfois on entrait dans des casinos, des établissements qui étaient estampillés comme tels, et à l'intérieur, le matériel de jeu, en fait, avait quasiment complètement disparu. Et en interrogeant un petit peu les gens, on se rendait compte qu'effectivement, il y avait énormément de gens dans l'immeuble, mais qui travaillaient dans les étages supérieurs à faire autre chose, et effectivement, des arnaques en ligne, comme vous le dites. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait tout un tas de casinos qui avaient été reconvertis vers ces arnaques. Alors visiblement, l'origine des gens qui montent ces arnaques était essentiellement chinoise à l'origine, hein, puisque les autorités chinoises ont beaucoup lutté contre ce type d'arnaque en ligne au sein de la Chine. Et donc, la criminalité chinoise s'est tournée vers les pays d'Asie du Sud-Est, hein, notamment vers le Cambodge, mais pas seulement, on les trouve aussi au Myanmar, au Laos, aux Philippines. Mais c'est vrai que le Cambodge fait office, hein, de point un peu fort de cette criminalité. Mais on s'est rendu compte aussi en enquêtant qu'on avait d'autres nationalités, notamment des Indonésiens, des Pakistanais, qui visiblement tenaient des casinos plus ou moins affiliés à ces systèmes d'arnaque en ligne.
Et comment recrute telles ces organisations criminelles du personnel pour constituer des armées de brouteurs, parfois de force, comme on l'a entendu dans le témoignage au début de cet entretien? Comment procèdent-elles? Est-ce qu'elles sont intéressées par des profils en particulier?
Alors historiquement, quand c'était des mafias chinoises qui tenaient les commerces, elles faisaient appel à la main d'œuvre chinoise. Mais avec l'épidémie de Covid, les autorités chinoises ont beaucoup bloqué la mobilité de la main d'œuvre chinoise, et du coup, ils ont eu recours à une main d'œuvre étrangère. De plus en plus, hein, en passant des annonces via les réseaux sociaux, TikTok, Telegram, WeChat ou Facebook. En passant des fausses annonces, hein, d'emploi, de réceptionniste, de cuisinier, d'informaticien. Et c'est une main d'œuvre de plus en plus internationalisée qui a été comme ça raptée quelque part, hein, par ces groupes criminels, en pensant obtenir un emploi tout à fait légal, et se sont trouvés enrôlés de force, hein, dans ces établissements, desquels malheureusement ils ont beaucoup de mal à sortir, puisqu'ils doivent payer une dette, généralement 1 500 $, 2 000 $, voire davantage, pour pouvoir être extraits du camp.
Des jeunes Kényans, Éthiopiens, Pakistanais, Indiens, Indonésiens qui ont cet avantage pour les organisations criminelles de souvent parler deux langues, leur langue maternelle et l'anglais, ce qui intéresse les organisations criminelles pour les arnaques en ligne. Pour faire le lien maintenant, Boris Lebeau, avec notre émission, les affrontements armés du mois de juillet, est-ce qu'ils ont fait fuir et les travailleurs de l'arnaque en ligne et leurs employeurs mafieux?
Alors, effectivement, là, la question des travailleurs forcés est un enjeu, à mon avis, entre la Thaïlande et la Cambodge, hein, puisque la Thaïlande le sait très bien, le gouvernement thaïlandais est très conscient qu'il y a par exemple 1 500 ressortissants thaïlandais qui sont dans des camps de travail à Sihanoukville, et 3 000 ont d'ailleurs été libérés, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et c'est vrai que les affrontements entre la Thaïlande et le Cambodge et la fermeture de la frontière ont évidemment eu des répercussions très négatives, hein, pour la fréquentation des casinos côté cambodgien, ce qui là est, à mon avis, permet de mettre un coup d'arrêt à cette activité. Et à mon avis, l'autre disposition dont dispose le gouvernement thaïlandais pour endiguer un petit peu cette activité criminelle du côté cambodgien, c'est l'ouverture de casinos en Thaïlande. Et c'est ce qui a été proposé, annoncé en tout cas cette année, c'est la libéralisation des jeux d'argent en Thaïlande, qui mettrait certainement un coup d'arrêt, enfin peut-être pas complètement d'arrêt à l'activité, mais un sérieux coup de frein à l'activité casinotière du côté du Cambodge, sur la frontière Thaïlande-Cambodge.
Et est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que la Thaïlande envisage ça pour couper l'herbe sous le pied du Cambodge, dont pour qui l'activité représente, d'après l'ONU et différentes ONG, au moins 40% du produit intérieur brut?
Exactement, alors ça doit faire partie de l'équation, hein, mais il faut voir aussi que la Thaïlande est un grand pays touristique, et donc d'avoir en plus dans son escarcelle une offre de jeux légalisée peut être aussi un atout pour elle en termes d'offre touristique.
Merci beaucoup Boris Lebeau d'avoir été avec nous pour votre travail sur les casinos et l'arnaque en ligne le long de cette frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Votre livre Géopolitique des jeux d'argent, paru aux éditions du Cavalier Bleu, sera réédité en format poche en janvier prochain. D'abord, une très rapide question, Gabriel Fauveau, on arrive bientôt à la fin de cette émission, mais vous avez également travaillé avec Boris Lebeau sur cette question des casinos. Est-ce que les différends à la frontière sont aussi instrumentalisés par le Cambodge pour détourner l'attention de ces activités illégales de casinos et d'arnaques en ligne ?
Alors oui, ben je salue, j'en profite pour saluer Boris Lebeau. Pour détourner, je sais pas. Par contre, c'est sûr que le fait que Thaksin veut depuis longtemps légaliser les jeux d'argent en Thaïlande, et pas seulement les casinos terrestres, mais aussi les casinos en ligne, parce que le lien entre l'activité casinotière et les arnaques en ligne, en fait, le chaînon entre les deux, c'est aussi le développement des jeux en ligne, pourrait être à l'origine de ce différend, hein, de ce différend entre le clan Hun Sen et le clan Thaksin, et la fuite dont nous avons parlé dans la première partie de l'émission, hein, la suite de l'entretien téléphonique. Mais c'est que des suppositions, évidemment, hein, parce que comme l'a dit Boris Lebeau, c'est très très opaque, hein, comme milieu, pourrait être aussi une manière de pousser le gouvernement thaïlandais et la partie du gouvernement thaïlandais qui est opposée à cette légalisation pour des raisons d'ordre moral et autres, à reculer sur cette question-là et à se garder cette espèce de monopole extrêmement des casinos terrestres et en ligne sur ce côté-là de la frontière. Alors, extrêmement lucratif, notamment pour les membres du gouvernement et le clan Hun Sen.
Il y a, Eugénie Mériot, des pressions internationales, y compris chinoises d'ailleurs, pour que soient fermées ces centres de cybercriminalité, ce qui me permet une toute dernière question. Au-delà de cet affrontement très thaïlando-cambodgien qui nourrit les nationalismes des deux côtés, est-ce qu'il faut aussi avoir en tête le contexte géopolitique, les liens que les deux pays entretiennent, notamment avec la Chine, pour comprendre tous les enjeux du conflit, du conflit autour de cette frontière?
Alors oui, mais je me permets juste d'être en accord avec mon collègue sur la question de pourquoi est-ce que Hun Sen a fait fuiter cet appel téléphonique pour en finir avec le clan Shinawat. C'est probablement aussi lié à des enjeux financiers entre Hun Sen et Thaksin, y compris la question de la légalisation des casinos en ligne, ce qui nous invite à évidemment remettre en cause le fait que nous avons ici deux dirigeants, deux clans, deux dynasties qui sont prêts à risquer une guerre pour des intérêts financiers privés particuliers. Et pour revenir à la question Chine-États-Unis, donc lors de la discussion sur le cessez-le-feu qui a eu lieu à Kuala Lumpur, il y avait des observateurs chinois et des observateurs états-uniens qui se sont installés à la table avec Anwar Ibrahim, le Premier ministre de Malaisie. On peut voir aussi dans cette question-là donc un phénomène de balancier très connu en Asie du Sud-Est entre la Chine et les États-Unis au niveau géopolitique. Mais ce qui est très très net en tout cas avec la Thaïlande et je crois aussi avec le Cambodge, c'est un rapprochement plutôt avec la Chine qui est en train de s'opérer de façon assez nette en ce moment, y compris sur cette question-là.
Alors que la Thaïlande était plutôt historiquement assez proche des États-Unis. Donc là, il y a aussi un basculement qui s'opère et des États-Unis très soucieux de ce qui est en train de se passer. On parlait la semaine dernière de la paix selon Donald Trump, la Pax Americana de Donald Trump. En l'occurrence, il a vraiment tout de suite appelé les deux dirigeants pour que les choses se calment. Donc il y a aussi ça à garder en tête quand on parle de ces affrontements. Merci beaucoup Eugénie Mériot d'avoir été avec nous, maîtresse de conférence en droit public à l'Université Paris 1. Et merci beaucoup Gabriel Fauveau d'avoir été avec nous en ligne depuis Montréal où il est très tôt. Je rappelle que vous êtes géographe, membre du Centre d'études asiatiques de l'Université de Montréal. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
C'est un nouveau défi pour la sécurité en Europe, Catherine. La Roumanie proteste contre l'intrusion d'un drone russe dans son espace aérien.
Et Bucarest convoque l'ambassadeur russe, annonce le journal roumain Quotidianul, après qu'un drone russe a donc survolé pendant 50 minutes samedi l'est de la Roumanie. Deux avions de combat roumains F-16 ont été dépêchés pour l'intercepter, aidés d'avions allemands. Ils n'ont finalement pas tiré puisque le drone est reparti en direction de l'Ukraine, explique Quotidianul. Mais voilà, la Roumanie est le deuxième pays de l'OTAN à signaler la présence de drones russes dans son espace aérien, souligne la BBC. Après l'incursion d'une vingtaine de drones dans l'espace aérien polonais la semaine dernière, ils ont été abattus à l'aide de systèmes d'armes valant plusieurs millions de dollars, ce qui trahit pour Politico le manque de préparation de l'OTAN face à de telles menaces bon marché. Va-t-on envoyer des F-16 et des F-35 à chaque fois? Ce n'est pas viable. Nous devons mieux nous équiper en systèmes anti-drones, plaide dans les colonnes de Politico une chercheuse au sein du Conseil européen des relations étrangères. Un besoin d'autant plus urgent que la Russie a fait de la production de drones une priorité absolue, ajoute le New York Times. Moscou peut produire près de 3000 drones par mois, du même type que le sophistiqué Shahed iranien, précise le Kyiv Independent et RBK Ukraina. Une force de frappe pour submerger, pour démoraliser les Ukrainiens. Il y a 8 jours, en une seule nuit, la Russie a envoyé plus de 800 drones explosifs et des leurs traverser la frontière, rappelle le New York Times et le média indépendant Mediazona. Des drones, notamment fabriqués par de jeunes femmes africaines qui partent en Russie, pensant travailler dans l'hôtellerie ou la restauration, décrit le média éthiopien The Reporter, mais elles se retrouvent dans des usines de fabrication de drones. J'en avais déjà parlé en février dernier. De jeunes Kirghizes aussi, pensant se former dans des lycées techniques en Russie, se retrouvent à assembler des drones, révèle Radio Free Europe, Radio Liberty, et de plus en plus de jeunes Russes contribuent aussi à l'effort de guerre. Des étudiants, des lycéens sont parfois obligés de fabriquer des drones, sinon ils sont expulsés de leurs établissements, décrit la Deutsche Welle. Des camps scientifiques pour enfants à Sotchi aussi voient des adolescents expliquer les détails d'un drone qu'ils ont développé avec le logo de l'armée russe en arrière-plan. La tactique a également changé. Moscou envoie des drones d'attaque par essaim ou par vague et les dirige selon des trajectoires confuses pour détourner l'attention des véritables cibles, analyse le New York Times. De nombreux leurres sont aussi déployés, faits de mousse peinte et de contreplaqués, impossibles à distinguer des drones réels dans le ciel. Une fois ces drones entrés dans les villes, ils sont plus difficiles à abattre en raison de la hauteur des immeubles et des risques pour les civils. L'Ukraine, l'Union européenne et l'OTAN ont-elles les moyens de faire face à ce nouveau type d'assaut? La Frankfurter Allgemeine Zeitung en doute dans un article passionnant. À l'heure où la Russie intensifie donc sa guerre hybride aussi par de l'espionnage, des cyberattaques, du sabotage de câbles sous-marins, notamment dans la mer Baltique, sans compter l'instrumentalisation de l'immigration, l'arme de la désinformation qui vise à saper les sociétés occidentales, décrypte la Frankfurter Allgemeine Zeitung en Allemagne. Polarisation et chaos politique sont aussi des objectifs de la Russie dans sa guerre hybride.
Pour la suite de votre revue de presse internationale, Catherine Dutu, la biodiversité dans l'Amazonie sert de bouclier contre les maladies.
On connaît l'Amazonie comme le fameux poumon de la planète qui s'essouffle d'ailleurs. Un quart de la biodiversité se trouve dans la plus grande forêt tropicale du monde où vivent 2 700 000 autochtones. 100 milliards de tonnes de carbone y sont stockées, l'équivalent de plus de 10 ans d'émissions mondiales d'énergie fossile, explique America Futura. Eh bien, plus l'Amazonie est protégée, plus c'est une alliée pour notre santé, révèle une étude publiée dans Communications Earth and Environment. Les forêts des territoires autochtones réduisent la propagation de 27 maladies, allant des maladies respiratoires aux maladies transmises par les insectes et les animaux. L'Union internationale pour la conservation de la nature a mené cette recherche sur 20 ans, inédite à l'échelle de l'Amazonie, entre Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Guyana, Pérou, Suriname, Venezuela. Selon les auteurs, note le journal argentin Infobae, la conclusion est claire, garantir les droits territoriaux des communautés autochtones est le meilleur moyen de préserver l'intégrité des forêts et par conséquent des bienfaits pour la santé de millions de personnes.
C'est justement au Brésil, en Amazonie, que se tiendra fin novembre la conférence annuelle de l'ONU sur le climat.
Plusieurs pays se plaignent de la flambée des prix des chambres d'hôtel, alerte le journal brésilien O Popular. Des locataires tempêtent aussi contre des expulsions de leur logement, rapporte O Globo. Situation inédite. Certaines délégations annoncent déjà qu'elles vont réduire leurs effectifs, déplore sur Radio Eldorado Marcio Astrini du réseau brésilien d'ONG, l'Observatoire du Climat. Il craint que cette COP ne devienne la plus excluante de l'histoire et implore dans les colonnes du quotidien brésilien Estadão, le président Lula, de résoudre ce problème au plus vite, sans quoi les questions d'hébergement risquent de reléguer au second plan la préparation des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.
Merci Catherine Dutu.